à force de rencontrer des entrepreneurs brillants, des success stories, des gens qui réussissent et qui font de belles choses, qui sont acteurs de leur vie, ça te donne envie de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est un truc qui me titillait, de dire, bah, t'as été commentateur, spectateur, pourquoi tu ne deviendrais pas acteur ? C'est de se dire, ok, moi, je tends le micro à des gens qui font, et je fais quoi, moi ? Bon, je tends le micro, et tu peux être un journaliste et être heureux dans cette carrière, mais en tout cas, moi, à un moment donné, ça a commencé à me titiller, je me suis dit, tiens, Qu'est-ce que tu construis ? J'ai demandé à ma petite voix, tiens, qu'est-ce que tu peux faire après Décideur TV? Parce que l'aventure industrielle de Décideur TV, je voyais bien qu'elle allait, enfin, que c'est pas moi qui arriverais à la développer, en tout cas, et que j'avais pas trouvé les clés. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, est-ce que je retournais dans les médias? Est-ce que je lançais un autre projet? Ou est-ce que je faisais quelque chose de différent? C'est un métier nouveau, mais c'est ça qui est excitant. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai été journaliste, j'ai dû apprendre from scratch, j'ai été entrepreneur pareil. C'est évident que si t'as pas le support de ton entourage, de ta famille, et en particulier de ma femme Karine, j'aurais jamais entrepris tout ça. Je suis heureux d'avoir écouté finalement mes intuitions et d'avoir suivi un parcours qui était enfin, qui peut sembler éclectique ou en tout cas qui n'était pas tracé. Rien qui te tombe tout cru dans la bouche. Hein. Ta petite voix, elle te dit vas-y, après toi, tu dois bosser.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Après deux femmes au parcours exceptionnel, retour à un témoignage masculin enregistré il y a quelques semaines. J'ai rencontré Thomas il y a quelques années et quand j'ai lancé Pourquoi pas moi, il m'a directement contacté en me disant « Si tu veux m'interviewer, j'ai plein de choses à dire sur le sujet ». Et en effet, promesse tenue. En enregistrant cet épisode du podcast avec Thomas, j'ai découvert que le rêve d'enfant qu'il avait était d'être astronaute. Son rêve brisé à cause de ses yeux, il a dû se réinventer et écouter sa petite voix, la petite voix de l'information. Suite à de belles études, Sciences Po et un master en école de commerce, Thomas est devenu journaliste et a été la figure emblématique de la bourse sur LCI pendant plus de 13 ans. Il a entrepris en créant Décideur TV et est désormais banquier d'affaires. Un parcours hors norme avec une grande prise de recul sur les choses. Avant de vous faire entrer dans l'univers de Thomas, je vous prends encore quelques secondes pour vous remercier pour vos écoutes et vous dire que j'ai besoin de vous pour m'aider à faire connaître Pourquoi pas moi. Comment ? En parlant autour de vous et en vous abonnant et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Parenthèse fermée, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Thomas Blard. Bonjour Thomas.
Bonjour Charlotte.
Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît?
Oui, alors c'était une grosse difficulté parce que tu m'as prévenu last minute hier quel objet je pourrais prendre pour me présenter. Et en fait, ça m'a posé une vraie colle parce que je me suis dit, je voyais pas trop quel doudou je pourrais t'apporter. Je suis pas très, je voyais pas ce qui pourrait me correspondre. Et donc finalement, bon, j'ai un peu été vers la facilité. J'ai pris mon téléphone portable, mon mobile qui m'accompagne matin, midi et soir. Et comme beaucoup d'ailleurs, c'est pas très original. Mais je pense qu'en effet, sans lui, je me sens un peu nu.
Tout seul.
Ben en fait, tu vois, on parle d'addiction. Moi, c'est vrai. Quand je suis pas connecté, je me sens presque physiquement pas bien.
Ouais, tu fais partie de ceux qui, quand ils oublient leur téléphone le matin, ils font demi-tour.
Ouais, ouais. Exactement.
Moi, je crois que je suis un peu pareil, si on est honnête.
Ça m'arrive quelquefois.
Avant de parler de ton parcours professionnel, j'aimerais comprendre qui était le petit Thomas, de savoir d'où tu viens, où est-ce que tu es né.
Alors moi, je suis né à Paris 15e.
D'accord.
J'ai grandi dans le 20e arrondissement pendant 5 ans, 6 ans. Et puis, mes parents ont déménagé en banlieue parisienne, dans un village qui s'appelle Soisy-sur-Seine. C'est entre Évry et Corbeil. Et donc, j'ai grandi là jusqu'au bac et après je suis parti faire mes études d'ailleurs.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier tes parents ?
J'ai une mère, une maman qui est professeure, qui était prof de physique chimie puis qui s'est orientée vers la technologie, qui s'est reconvertie vers la technologie, prof de techno, et un père ingénieur.
D'accord. Et t'as des frères et sœurs ?
J'ai deux frères, oui.
Qu'est-ce qu'ils font dans la vie ?
Ils sont tous les deux ingénieurs.
D'accord.
Moi, je suis un petit canard. Il y en a un qui est ingénieur chez Schneider et l'autre ingénieur dans le conseil bancaire.
Et tu dis que tu es le vilain petit canard. Quand tu étais petit, tu te rêvais faire quel métier ? Est-ce que tu te sentais déjà un peu différent de tes frères ?
Alors, je sais pas si je me sentais différent d'eux, mais en tout cas, très tôt, là aussi ça va pas te sembler original, j'ai eu la vocation et vraiment l'envie très forte de devenir astronaute.
D'accord.
Et c'était un truc, tu vois, j'avais des posters, enfin j'imagine comme plein de petits garçons, c'était l'époque d'Ariane et tout ça, qui rêvait de, je sais pas, de conquête, d'aventure, de mythe américain, et ça faisait rêver de se dire on pourrait être des pionniers, des astronautes. Mmh. Et donc, mais ça m'a vraiment travaillé et... J'ai orienté finalement ma petite voix. Enfin, elle me disait, il faut que tu sois astronaute. Et donc, je travaillais dans ce sens-là en me disant, bah voilà, mon parcours est tracé. Pour être astronaute, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être pilote de chasse. Pour être pilote de chasse, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une prépa maths sup, maths spé. Enfin, voilà, je me voyais sur des rails. Jusqu'au jour où, et là, ça a été vraiment... enfin, c'est encore un traumatisme, je pense, si je devais m'allonger sur un divan. Je vais passer.
On peut peut-être préciser qu'on est assis à côté. On n'est pas allongé. Tu n'es pas allongé.
je passe une visite chez un ophtalmo, une visite de routine, ouais. Et il me dit, oh, comme ça, un peu small talk. Ah, tiens, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ? Je dis, bah, je vais être pilote.
T'avais quel âge à ce moment-là ?
J'étais en troisième, toi. D'accord. Donc entre le moment où t'as 7-8 ans, t'as des rêves, ouais, de gamin, et puis t'es en troisième et tu t'investis dans ce futur. Il s'était passé quelques années, donc c'était vraiment pour moi une conviction et je travaillais à ça, y compris scolairement, parce que je me disais, il faut que je sois bon en maths, en physique, pour pouvoir
T'avais
faire des prépas.
T'avais analysé le parcours.
Exactement. Ah. Et il me dit, ah bah tiens, vous voulez être pilote, vous savez que pour être pilote, on fait passer des tests ophtalmo et notamment les tests de couleur, là, les petits points, je sais pas si tu as déjà vu ça, tu dois lire des chiffres, il y a plein de petits points.
Ah oui, si,
et qui apparaissent en couleur. C'est pour détecter un éventuel daltonisme. Et donc, il me montre ces pictogrammes et il me dit, vous lisez quel chiffre ? Et alors là, bon, rien, parce que moi, je voyais rien. c'était pour moi, c'était complètement nébuleux. Et donc, bon, il dit, bon, il était un peu embêté, il m'en montre un autre, puis un troisième, rien. Il me dit, ah bon, c'est embêtant parce que pour être pilote, faut passer ces tests. Et donc, je pense que vous êtes daltonien et, enfin, légèrement, ouais. Hein, je vois des couleurs, mais il y a des palettes de marron, notamment des dégradés que je vois pas bien. Enfin, en tout cas, qui me permettaient pas de réussir à ces tests.
Et accomplir ce rêve-là.
De daltonisme. Et en effet, ça a été une douche froide. Enfin, tu vois, t'imagines, t'es en troisième, tu vas passer une visite de routine chez un ophtalmo, il doit être vendredi soir, tu ressors de là, ton rêve d'enfant, ta carrière, elle est en miettes.
Ouais. Donc là, qu'est-ce qui se passe de...
Bah, rien, en fait. Bon, tu vois, tu continues.
Tes parents, ils t'ont soutenu parce que...
Oui, bien sûr. Bah, comme tu soutiens un enfant qui a un rêve d'enfant, et puis... Tu vois, son jouet se casse ou finalement, il sera pas footballeur professionnel ou pompier ou vétérinaire, tu vois. Enfin, mais encore une fois, moi, c'était pas une passade. Je m'étais investi beaucoup dans cette projection professionnelle. Et ça a été un peu dur. Ouais. C'était un drame pendant... Alors, je me souviens plus très bien comment je l'ai vécu ou évacué. Mais bon... Voilà, du coup, je me suis dit, finalement, les études de prépa, maths sup, maths spé, c'est moins mon truc parce que c'était dans un but très précis.
Ouais, c'était pas c'était un moyen d'arriver à ton objectif.
Et donc, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Parce que, enfin, c'est une question existentielle de tout le monde, tout le temps, mais quand t'es un jeune garçon, une jeune fille en particulier, tu cherches ta voie. Hein, puis t'es dans ce monde où on te dit, bah voilà, tu feuillettes l'étudiant. Enfin, c'était ça à mon époque, il n'y avait pas Internet. Et donc, tu cherches, tu vas aux journées de carrière, tu te dis, mais tiens, qu'est-ce qui t'intéresse ? Et plus rien n'a de saveur, plus rien n'a de goût, parce que toi, tu voulais être astronaute.
Et c'était quoi tes loisirs quand t'étais petit ?
Alors, moi, j'ai fait pas mal de judo quand j'étais gamin. L'été, je faisais de la voile.
D'accord. Et tes matières préférées, c'était les maths parce que c'était ton objectif ou est-ce que tu avais des matières où t'étais, qui t'animaient ?
En fait, non, les maths, ça n'a jamais été ma matière préférée. Moi, j'étais plutôt un bon élève jusqu'au lycée. Je ne saurais pas dire si j'aimais bien le français, en fait. Et la physique, j'aimais bien la physique. D'accord. Aussi. Pas la chimie, mais la physique.
Ok. Donc là, tu passes ton bac en S.
Ouais, à l'époque, ça s'appelait C.
Ouais. Ouais, et maintenant, ça a encore. Enfin, moi, je suis de la génération S, ouais. Et maintenant, ça a encore changé. Donc.
Bah, bientôt, il n'y aura plus de bac, d'ailleurs.
Ouais.
Donc, oui, non, je passe un bac C. Et puis, voilà. Et donc, se pose la question de qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux faire.
Et donc, là, qu'est-ce que.
Et donc, là, en fait. Je me suis rendu compte en terminale, j'étais en pension, hein, en terminale.
Pourquoi tu étais en pension?
Parce que j'étais un ado un peu agité, turbulent, et j'en avais marre d'être dans le giron familial.
Ok.
Donc, je crois que ça arrangeait tout le monde. J'ai demandé à mes parents, tiens, est-ce que je peux partir en pension? Et donc, en terminale, je me suis inscrit en pension.
C'est rare que ça soit du fait de l'enfant de dire je vais en pension. En général, c'est surtout assez souvent. Moi, je me rappelle quand mes parents, quand j'étais jeune, ils n'arrêtaient pas de dire à mon frère, si tu continues tes conneries, et encore, ils en faisaient pas beaucoup, on t'envoie en pension. C'était la...
oui, non, mais souvent, c'est l'image. Mais tu vois, moi, c'était le contraire. En effet, ça doit arriver. Et en tout cas, ouais, bon, j'avais besoin de changer d'air.
Ouais.
De bocal. Je me suis retrouvé en pension et donc en pension, je me suis retrouvé avec des petits camarades. C'était une grosse pension. Il y avait 12 classes en terminale, tu vois. Et donc, qui n'étaient pas que scientifiques, parce que en bac C, bah, tu vois, ils rêvent tous de faire agro, ingénieur et autres. Et donc là, tu côtoies d'autres profils.
Ouais.
T'as des pensionnaires qui font A, enfin qui faisaient des études littéraires à l'époque, B, économie, même gestion, il y avait des bacs G. Et donc, tu vois d'autres profils, d'autres centres d'intérêt. Et je me suis rendu compte que finalement, bah, j'avais plaisir à discuter avec des gens qui étaient dans d'autres cases, notamment littéraires ou économiques. Et eux voulaient tous faire Sciences Po.
D'accord.
Et alors, tu vas pas me croire, mais moi, je ne savais pas ce qu'était Sciences Po en terminale. Je suis arrivé en terminale,
okay.
C,
ouais.
Tu vois, sur mes rails lancés, ingénieur, prépa, et on me disait qu'il fallait être bon en maths physique, et le reste, je savais pas ce que c'était. Et donc, j'ai commencé à discuter avec eux, et je leur ai dit, mais ça a l'air bien votre truc, c'est quoi, et tout. Je me suis renseigné, et déjà à l'époque, j'adorais lire la presse. J'avais un vrai goût, tu vois,
ouais.
Le soir.
Quel type de presse?
Ben, j'allais au CDI, je lisais Le Monde.
D'accord.
Tu vois,
ouais.
Et j'adorais ça. Et je me disais, bah, c'est quand même bizarre. Je savais pas que ce monde existait finalement.
Ouais.
Et je me suis dit, tiens, ça doit être bien Sciences Po, ça me correspondrait parce que, voilà, pourquoi pas essayer ça?
Ouais. Donc là, tu as été pris à Sciences Po Strasbourg.
Oui.
Donc tu te dis, bon, est-ce que tu commences à imaginer un métier potentiel ou tu te dis, ça me plaît tout ça, mais je ne sais pas vraiment ce que je veux faire?
Alors, tu sais, ce qu'on dit de Sciences Po, c'est bien d'y rentrer, mais c'est encore mieux d'en sortir et ça mène à tout à condition d'en sortir. Et donc, en fait, là, bah, toujours pareil, bon, je me laissais un peu porter parce que, voilà, tu ne sais pas trop, c'est assez difficile et je pense... Enfin, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, mais moi, j'ai toujours essayé, dans mes activités diverses, de recevoir, tu sais, il y a des stages en troisième, d'éveil au métier. Je trouve que c'est une idée fantastique parce que ça te permet de voir ce qu'est une entreprise, comment ça fonctionne et à quoi ressemble un métier qui peut t'intéresser ou pas. Et c'est vraiment un truc qu'il faut encourager. Et je pense que tant que t'as pas vu ce que c'était les vrais métiers, bah t'as du mal à les visualiser. Enfin, sauf d'être dans une famille de médecins et puis se rendre compte et toi-même devenir médecin. Mais et donc bah, Sciences Po, je me laisse porter par les matières. Là aussi, il y a une bifurcation. J'aurais, enfin la plupart de mes copains plutôt Sciences Po scientifiques allaient vers Ecofi, économie et finance. Moi, j'ai hésité et je me suis dit non, tiens, je vais écouter ma petite voix et je vais faire relations internationales. En plus, à Strasbourg, tu sais, c'était très européen
ouais,
et tout.
Sûr.
Et donc, je me suis retrouvé dans cette filière relations internationales. Et puis, se pose toujours la question de qu'est-ce que tu vas faire après. Et là, pareil, j'avais sympathisé avec plein de petits camarades qui rêvaient d'être journalistes. Pareil, je ne savais pas ce qu'était journaliste, mais je savais que j'aimais
lire
la
monde.
Presse. Le Monde et puis d'autres. Hein. Enfin, j'étais boulimique de médias, j'aimais ça. Et j'avais des études qui m'ouvraient cette porte. Mais bon, question c'est, est-ce que quand tu n'as aucune idée de ce qu'est le métier, est-ce que un, t'es bon pour le faire? Et deux, est-ce qu'on va t'accueillir? Donc, à l'issue de Sciences Po, c'est poser la question, est-ce que je tente les concours d'école de journalisme ou est-ce que je fais autre chose? Et en fait, je me suis dit, bon, écoute, c'est quand même un gros pari, donc faut jouer la prudence. J'ai arbitré mon risque Et je me suis dit, va présenter plutôt une école de commerce.
Okay.
Et parce qu'il sera toujours temps d'être journaliste si tu fais une école de commerce, alors que ouais. si tu fais une école de journalisme, il sera plus dur d'être marketeur ou banquier.
Mmh. Donc là, tu fais le SCP.
Alors, ça s'appelait l'EAP à l'époque. En fait, l'EAP, c'est une école qui a disparu, malheureusement. Feu l'EAP, c'était une école géniale qui ouais. était précurseur. Une école européenne, tu faisais un an à Paris, un an à Oxford et un an à Berlin.
Ouais, c'est ce qui est super précurseur parce qu'aujourd'hui, maintenant, enfin, les.
Bah, maintenant, tout le monde le fait. Et d'ailleurs, le SCP, là aussi, il faut. Le SCP a acquis cette dimension européenne ouais. grâce à l'EAP parce qu'ils ont, ça leur a permis de récupérer les campus et puis cette. Mais bon, c'était une petite école, hein, il y avait des promos réduites. Mais très européenne. Les Français ouais. étaient pas majoritaires. Donc, on était vraiment dans un creuset hyper européen. Et moi, ça m'a rendu 100% pro-européen.
Ouais.
De justement, bah, de voir que, en Angleterre, alors, c'est marrant qu'on fasse cette interview aujourd'hui parce que c'est le Brexit,
ouais,
hein.
Tout à fait.
C'est l'anniversaire, enfin, c'est la date de sortie de l'Angleterre. Mm. Mais je me rendais compte, tu vois, ils étaient aussi chauvins que nous, les Allemands aussi chauvins que nous. Et en fait, je me disais, bah oui, peut-être que je suis trop chauvin, que je suis trop franco-français, mm. parce que finalement, on a les mêmes problèmes. Alors, chacun a ses qualités et ses défauts, mais faut relativiser. Et ça m'a rendu profondément européen, mais très concrètement. Et c'était une école géniale. Et donc, depuis, elle a été, en effet, fusionnée dans
avec
le
SCP.
Le SCP Business, maintenant. Elle change de Business School. Ouais. Elle change de nom tout le temps.
Ouais. C'est comme les bacs, les écoles de commerce changent tout le temps de nom.
Ouais.
Donc là, tu te dis, OK, j'ai fait mon école de commerce, comme ça, je pourrais être journaliste ah oui. après. Donc,
Alors, ce qui est génial dans les écoles de commerce, c'est que tu as des stages.
Ouais.
Parce que, tu vois, au bout d'un moment, enfin, je sais plus quel âge j'avais, peut-être 21, 22 ans, tu commences à, enfin, c'est bien, les cours, t'es sur des bancs, t'as des profs qui t'expliquent la vie, mais t'as envie de voir à quoi ça ressemble, mm. parce que la théorie, c'est super, mais, et donc, il y a un truc qui est génial, c'est que chaque année, tu devais faire 4 mois de stage. Et donc, pareil, cette petite voix me disait, mais le journalisme, pourquoi pas? Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, mm. t'as l'occasion de faire des stages, jette-toi à l'eau, tape à la porte d'une rédaction et puis vois si ça te plaît et puis si t'es accepté, si ça te plaît. Et plutôt que d'aller taper chez L'Oréal ou chez BNP. Et donc, c'est ce que je fais. J'écris au Figaro et puis c'est un concours de circonstances, mais bon, je la fais brève. Et je finis par être pris. On me dit, bah oui, vous avez un profil école de commerce, justement, au service éco. On pourrait avoir besoin de profils comme vous. Donc, je fais un
stage. Ton pari était bon, du coup, d'avoir fait l'école.
Exactement. Mmh. Et peut-être même meilleur. Hein, c'était que de se dire, voilà, je vais être le 50e dans une école de journalisme. Là, j'avais un profil un peu différent.
Ouais.
C'est du marketing, quelque part. Mmh. Et là, ça a été un coup de foudre. Mais vraiment, c'est-à-dire que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai adoré ce stage au Figaro. C'était à l'époque Figaro Économie. Il y avait Yves Messarovitch qui était le rédacteur en chef. Son adjoint, c'était Philippe Mudry, les grands journalistes. Et je me suis retrouvé baigné dans cette ambiance incroyable où tu as l'impression d'être un peu au centre du monde. Ça change tout le temps. Tu rencontres que des gens brillants, puissants, intéressants. Un jour, c'est un PDG, un jour, c'est un ministre. Et c'était drôle parce que quand je suis revenu à l'école, beaucoup de mes petits camarades étaient partis dans des grands groupes. Hein, mm-hmm. Et je leur disais, j'ai vu ton patron. Et ils n'en croyaient pas leurs oreilles parce qu'ils étaient N-27. Mm-hmm. Et donc, c'était drôle. Et donc, je me suis dit, c'est un métier génial parce que t'as pas de routine, ça change tout le temps, t'es dans le bain de l'actualité, je me suis dit, je veux faire ce métier.
Donc là, c'était journalisme papier?
Oui, c'était la presse écrite.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à déménager à Londres et aller travailler? C'était chez Bloomberg?
Oui, alors donc après, donc je te disais, l'EAP, ouais. donc ça c'était à Paris, mon stage à Paris. Ensuite, j'étais à Oxford, il fallait faire un stage à Londres, donc okay. j'ai été tapé à la porte de la BBC.
Ouais.
Et là, pareil, autre coup de foudre avec la télévision. Tu te retrouves dans une salle, dans une régie pour la première fois avec tous ces écrans, t'as l'impression d'être, je sais pas, la NASA, justement.
La première fois que moi je suis rentrée dans une régie, c'était avec toi, quand on avait visité les studios de TF1 il y a bien 8 ans, je crois.
Et c'est toujours impressionnant, tu vois, cette ruche magique. Avec tous ces gens, cette espèce de tension, de direct, tiens, il y a un journal.
Ouais.
Et je me suis dit, ah, c'est génial, je veux faire ça. Et donc, je me suis retrouvé, la BBC quand j'étais à Oxford. Ensuite, je suis parti à Berlin. Et puis, premier job.
Ouais.
Question, je voulais devenir journaliste. Là, j'avais fait 2 stages, c'était sûr, je voulais. Et Bloomberg se lançait en France à l'époque. Et il y avait une équipe qui était basé à Londres et une équipe à l'AFP à Paris. Il se trouvait que j'avais une petite amie à l'époque à Londres. Donc, je suis allé taper à la porte de Bloomberg à Londres et c'est comme ça que j'ai été embauché pour lancer Bloomberg TV France.
Et donc, tu y es resté pendant combien de temps?
pendant un peu plus d'un an.
Ok.
Et après, l'armée s'est rappelée à mon bon souvenir.
Avant, on faisait le service militaire.
Mais oui, mais figure-toi que c'était... Jacques Chirac avait annoncé qu'il arrêtait le service militaire. Je faisais vraiment partie du dernier wagon.
D'accord.
Moi, j'étais installé à Londres. J'avais ma vie de petit présentateur télé.
Ouais.
Et puis l'armée s'est quand même rappelée à mon bon souvenir. Elle m'a dit non, monsieur Blard, il faut rentrer. Et donc, j'ai dû passer 9 ou 10 mois sous les drapeaux.
Tu avais une mission en rapport avec ton métier ou comme...
Alors oui, parce que quand ils m'ont dit non, vous y couperez pas. Bon, déjà, je l'avais un peu mauvaise. Et j'ai envoyé mon CV aux états-majors.
Ouais.
Tu sais, il y avait ce qu'on appelait les SIRPA à l'époque, je crois, les services de presse de l'armée. Et donc, je me suis retrouvé à l'état-major de la marine, adjoint du responsable audiovisuel de la marine. C'était quelqu'un de fantastique, très intéressant à titre personnel, Monsieur Dubrulle. Mais le boulot, enfin, il y avait rien, quoi. C'était l'armée. Tu sortais de Bloomberg à 200 à l'heure, la vie à Londres, et tu te retrouvais à t'ennuyer.
Ouais, c'était un peu plus plan-plan.
C'était l'armée.
Et à la fin de l'armée, tu t'es pas dit, tiens, j'ai envie de retourner à Londres? Tu t'es dit, je reste.
Alors, c'est une bonne question.
En France.
Donc, entre-temps, ma copine m'avait largué.
Si elle nous écoute, bonjour.
Une spéciale dédicace, c'est la vie. Et donc, je me suis dit, mais ce n'est pas ça qui était mon choix, parce qu'en effet, Bloomberg m'a dit, attendez, vous partez à l'armée, vous revenez nous voir après. Enfin,
ouais.
Ils sont clean. Hein.
Mm-hmm.
Mais je me suis dit, tu vois, j'avais subodoré que dans ce métier, le journalisme, faire une carrière à Londres, commencer ta carrière à Londres, ce n'était pas si évident que ça, parce que, en fait, il y a une matière première qui est essentielle dans ce métier, c'est ta langue maternelle.
Ouais.
Donc, n'étant pas complètement bilingue, faire une carrière dans des médias anglophones, c'était compliqué. Et faire une carrière francophone depuis Londres, c'était compliqué aussi, parce que à part Bloomberg à l'époque, il y avait rien. Donc je me suis dit, quitte à être rentré à Paris, c'est l'occasion d'aller taper aux portes de mes rédactions nationales et françaises. Et donc j'ai été voir BFM. Alors c'était BFM, pareil. Hein, je vais vraiment passer pour un vieux schnock, mais c'était au siècle dernier en même temps. BFM.
C'était en 2002, c'est ça?
C'était en 98.
BFM, 98. Ouais.
Ouais. Donc je suis allé taper à la porte de BFM. Donc c'était Canal historique. Hein, c'était la radio qui était à Puteaux, qui était plus généraliste avant qu'elle ne soit rachetée en 2002 par Alain Veil. Pour faire BFM Business. Mais bon, c'était une radio économique et puis un peu généraliste. Ça se voulait un petit concurrent de France Info. Bon, toujours est-il que je vais taper à la porte de BFM pour leur proposer mes services. Et donc, finalement, ils m'ont dit, ça tombe bien, nous, on cherche un journaliste boursier, venez présenter la bourse.
Donc là, ça y est, tu prends ta casquette que tu as gardée quand même pendant très, très longtemps, que tu as toujours d'ailleurs comme casquette de présentateur boursier?
Non, plus du tout. En fait, donc oui, c'est comme ça que je commence à faire, à passer derrière le micro et à présenter les points bourse sur BFM. Et puis, il y a un truc qui arrivait de plus en plus fort. Moi, j'avais commencé à y goûter à Londres en 96. C'était Internet.
Ouais.
Et Internet, tu vois, moi j'ai découvert ça chez Bloomberg et je trouvais ça magique. Et donc, à un moment donné, après quelques mois chez BFM, je vais voir le rédacteur en chef, je lui dis, mais il y a un truc qui est dingue là en ce moment, c'est Internet, il y a plein de jeunes qui créent des boîtes. Enfin, c'était vraiment le début de... j'aimerais créer une boîte sur... une émission qui s'appellerait Startup, hein,
okay.
Sur la création de boîtes autour d'Internet. Il m'a dit, écoute, fais ça. Et alors là, ça a été une période dingue, c'est la période de la bulle.
Ouais.
Et donc c'est là où j'ai rencontré finalement tous les grands qui sont devenus grands par ailleurs, mais qui commençaient, des Simon Signy, des Pierre Cauchysse Comorizet et autres. Et j'ai rencontré énormément d'acteurs et c'était une période complètement folle, pendant un an et demi, deux ans, qui a été cette bulle. Mais tout le monde quittait son job pour aller créer sa boîte.
Ouais.
Qu'on revoit un peu maintenant, avec Modulo quelques ajustements, mais en effet, cet appétit d'entreprendre, il était incroyable.
Donc là, c'était un blog que tu as créé, plus tu as lancé un peu des podcasts à l'époque?
Alors, ça, c'est venu après. Donc, ça, c'est ma période BFM.
Ouais.
Et je me suis dit un truc aussi, chemin faisant. Bon, c'est super d'être journaliste, mais si tu restes journaliste radio, et ça, il faut que tu te poses la question, et c'est un média génial, la radio, hein, parce que c'est un média d'imaginaire, t'es pas enfermé par une image, et c'est vraiment exceptionnel, et puis c'est un média light, et c'est vrai que la vague actuelle, la mode des podcasts, est sans doute...
Il y a un côté plus intime.
Oui, non, mais c'est fantastique. Mais je me disais en termes de carrière, parce que je me disais, tiens, il faut faire carrière dans ce métier. Si on ne voit pas ta gueule, bah, c'est compliqué. T'as beau être le meilleur journaliste radio du monde.
On se rappelle moins de toi.
Bah oui. Ou le meilleur journaliste de presse écrite du monde.
Ouais.
Et je me suis dit, il faut qu'on voit ton visage. Il faut qu'on te connaisse. Il faut qu'on te reconnaisse. Donc, pour ça, il faut faire de la télé.
Ouais.
Et donc, j'ai été tapé à la porte de LCI. Et Jean-Claude Dacier, à l'époque, qui était le patron de LCI, me dit... Il y a Jean-Pierre Gaillard là qui a commencé à vieillir, vous faites de la bourse et tout, bah vous pourriez prendre la suite. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la bourse sur LCI.
Là c'est une opportunité de dingue, j'imagine. Comment tu réagis quand il te dit ça? Tu fais une danse de la joie, tu...
Oui, alors je te le fais bref hein, parce que ça a été plus compliqué que ça, il y a eu des castings, ça a été
c'était pas tombé juste non, non, tout cru dans la bouche.
Non, enfin tu vois, il y a rien qui te tombe tout cru dans la bouche hein, ta petite voix elle te dit vas-y, après toi tu dois bosser. Mais j'étais content.
Ouais.
Bah, j'étais content parce que LCI, c'était la grande chaîne d'info de l'époque. Hein, il n'y en avait pas d'autres. Et donc, j'étais super content.
C'est une super belle vitrine. Mm. Donc, c'est à quel moment où tu te dis, je crée mon blog et je fais du podcast?
Alors, tu vois, moi, je suis toujours en train de regarder. Enfin, si ce métier m'a plu de journalisme et de journaliste, c'est parce que je suis curieux de nature.
Ouais.
On dit que c'est un vilain défaut, mais bon.
Ou une belle qualité.
En tout cas,
il faut
l'assumer.
Ouais.
Et donc, j'ai toujours été curieux de ce qui se passait. Et un jour, ça devait être en 2004, je déjeune avec Loïc Lemeur, donc aussi une grande figure de l'Internet français. Et il était vachement dans les blogs. Il me dit, toi, t'es journaliste, tu connais la techno, tu devrais lancer ton blog. Je dis, écoute, je vais regarder. Donc, il m'ouvre un compte et puis je lance un petit blog. Et puis très vite, je me suis dit ça m'embête d'écrire parce que c'est moins mon truc. Ce que j'aimais bien, c'était soit la radio ou la télé. Et donc je fais les premiers podcasts. Hein, parmi les premiers podcasts en 2004, je lance des petits podcasts, des petits trucs audio, pour voir, pour bidouiller. Et c'était intéressant. Donc en plus de mon métier de journaliste,
t'arrivais à trouver le temps dans.
Oui.
T'avais des enfants à cette époque-là?
Non. J'étais célibataire, techniquement, donc j'avais du temps.
Ouais. Okay.
Et je lance ça, et puis très vite, je rencontre Rodrigo aussi, qui lui était plus sur la vidéo sur Internet, et il faisait des petites interviews avec son téléphone numérique. Et je me suis dit, mais c'est génial parce qu'en plus du son, on peut mettre
la vidéo.
Ouais. Tu vois. Et on était en 2005, c'était l'époque où YouTube commençait à peine. Il y avait Dailymotion, Benjamin Beigebaum, tout ça, qui lançait Dailymotion. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et donc, j'ai mis de la vidéo sur mon podcast.
Okay.
Et puis après, je me suis dit, mais tiens, c'est top ça. Parce qu'en fait, quand tu es journaliste sur une chaîne d'infos comme LCI, t'as assez peu de temps de parole ou d'espace, parce que tout est chronométré, on te donne une émission. Donc moi, j'allais voir Dacier, je lui disais, mais j'aimerais bien faire une émission sur l'entreprise, j'aimerais bien faire une émission sur les grands patrons, j'aimerais bien faire... Et il me disait, mais attends, tu t'arrêtes, on va pas faire que de l'économie et tout. Et j'étais frustré.
Ouais.
Et donc, je me suis dit, mais passe sur Internet, puisque là, t'as un temps et un espace illimité, et fais ce que t'as envie de faire, ce que t'aimes faire, sur Internet, parce que il y a sans doute des gens comme toi qui sont frustrés de pas avoir assez de contenu sur ce qu'ils aiment, c'est-à-dire ce que j'aimais, la technologie, l'économie, la finance.
Ouais.
Alors je me suis dit, je vais faire un petit web TV, et donc j'ai commencé à l'industrialiser, entre guillemets, en interviewant tous les grands patrons ou tous les grands décideurs qui passaient chez LCI. Et donc, après leur interview sur le plateau, maquillé, tout propre, tout beau,
venez me voir.
Je faisais des petites interviews comme ça, dans les coulisses, avec un ton un peu décalé. Mmh. C'était marrant. C'était les premiers making-of. Et je mettais ça sur ma petite web TV.
C'était thomasblard.com?
Oui, alors c'est le blog, il devait être thomasblard.com. Ça devait être ça à l'époque.
Je l'ai trouvé sur Internet, mais en fait, il n'existe plus.
Ouais, il n'y a plus rien. Là.
On voit des traces, on voit l'URL écrite, mais il n'y a plus rien derrière.
C'est un vrai enjeu, là, les archives d'Internet. Je crois qu'il y avait des gens qui faisaient ça, mais bon. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est sympa. Et pourquoi pas, finalement, pousser la logique et lancer une vraie chaîne d'infos économiques, financières, technologiques, une web TV sur Internet. Donc c'est comme ça que c'est né, et donc j'ai lancé Décideur TV dans la foulée, en parallèle de LCI, c'est-à-dire que j'avais un contrat où j'allais le soir faire la bourse, et la journée, je développais Décideur TV.
Est-ce que c'était quelque chose où tu t'étais toujours dit « j'ai envie d'être entrepreneur » en voyant justement cette vague d'entrepreneurs?
Ah oui, bien sûr. En fait, à force de rencontrer des entrepreneurs brillants, des success stories, des gens... Qui réussissent et qui font des belles choses, qui sont acteurs de leur vie, ça te donne envie de passer de l'autre côté du miroir. Et ça, c'est un truc qui me titillait, de dire, t'as été commentateur, spectateur, pourquoi tu ne deviendrais pas acteur? Parce que je disais, le journalisme, c'est un super métier. C'est vrai que c'est un métier fantastique, et notamment quand t'as 20 ans, que tu découvres tout avec tes grands yeux écarquillés. Mais après un moment, t'as une certaine frustration qui peut naître, c'est de se dire, OK, moi, je tends le micro à des gens qui font...
Ouais.
Et je fais quoi, moi? Bon, je tends le micro et tu peux être un journaliste et être heureux dans cette carrière. Mais en tout cas, moi, à un moment donné, ça a commencé à me titiller. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu construis? Et c'est comme ça que, avec Décideur TV, j'ai pu pousser cette porte de l'entrepreneuriat.
Donc là, tu lances Décideur TV. C'est au début juste un projet où il y a juste toi qui est derrière. Et à partir de quand l'entreprise commence à prendre son envol?
Alors, Décideur TV, donc l'idée, je te la rappelle, c'est de se dire, on va faire une chaîne économique, financière, technologique. On va faire des bonnes émissions pointues sur des sujets. On aura des petites audiences, mais des audiences très intéressées par ces sujets. Ouais, donc, on ira trouver des sponsors ciblés qui sont intéressés par ces audiences ciblées. Et alors là, ça a été un gros échec parce que les sponsors me disaient tous, non mais attends, je sais pas combien vous êtes vus à l'époque, peut-être 500 vues, s'en fout quoi. Parce que nous, on achète du volume, on veut acheter du TF1, de la puissance. Mais en revanche, par exemple, j'allais voir des banques et ils me disaient, mais en revanche, on a un événement la semaine prochaine, ça serait pas mal si on pouvait filmer quelque chose, ou tiens, on voudrait parler de ce sujet, ou on a notre président qui voudrait s'adresser à nos équipes. Bon. Donc, est-ce que tu pourrais nous aider? Et donc, en fait, très vite, mon business model a dû pivoter, comme on dit maintenant, sur un modèle média financé par la publicité vers un modèle plus de production, de brand content, comme on dirait maintenant. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on mettait notre métier de journaliste au service de marques pour mieux communiquer, ce qui est devenu depuis le brand content. Et donc, pour revenir à comment ça s'est né, c'est né dans mon appart. En fait, il y a une première employée que j'ai embauchée dans ce qu'était mon appart. Elle était courageuse de venir. Elle s'appelle Noémie. On peut faire une petite dédicace à Noémie Lefebvre-Marek. Et elle a accepté finalement de jouer ce rôle, de venir dans mon appart pendant quelques mois pour m'aider à structurer. Moi, je courais à droite à gauche pour essayer de vendre des vidéos, fabriquer. Et puis, elle sortait d'une école de journalisme. Et voilà.
Donc, le montage, qu'est-ce qu'il le faisait?
Elle faisait pas mal de choses. Ouais. Elle faisait tout, était tout terrain. De toute façon, c'est des métiers où faut tout faire.
Il faut savoir tout faire
soi-même. Et donc voilà, c'est commencé comme ça. Et puis après, j'ai trouvé des locaux, puis on a grossi, on a grandi, on s'est développé.
D'accord. Et maintenant, tu n'es plus. Enfin, donc, tu as toujours la casquette Décideur TV. L'entreprise a continué à.
Alors, en fait, je viens de vendre Décideur TV la semaine dernière.
D'accord. Ok. Donc, je ne savais pas. Qu'est-ce qu'il a racheté?
Oui, c'est le groupe Ficad.
D'accord.
Le groupe Ficad, c'est un groupe de presse B2B qui édite notamment Gestion de Fortune ou Le Monde du Droit.
Ok.
Et alors, pour résumer l'aventure Décideur TV, donc ça a été une superbe aventure. On a bien progressé, on a levé de l'argent et puis après on a fait des conneries. Enfin, j'ai fait des conneries parce que c'est moi qui dirigeais. C'était moi le décideur. Des choix stratégiques, par exemple, on a voulu créer le YouTube des entreprises.
Ouais.
Donc avec notre technologie, notre plateforme, on a investi massivement dans le développement d'une plateforme techno. Bon, puis c'est très très compliqué quand c'est pas ton métier. Quand t'as YouTube en face, finalement les gens disent pourquoi j'irai chez toi plutôt que voilà. Donc enfin bref, on a fait plein d'erreurs. J'ai pas réussi à trouver des relais commerciaux pour finalement arriver à développer l'activité. Et maintenant surtout, le marché il a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'entre 2005 où on commence et 2020, tout le monde fait de la vidéo. Et à chaque fois que tu vas voir un client, il te dit moi j'ai moins cher ailleurs.
Ouais.
Tu passes ta vie à pleurer sur les marges, tu peux pas industrialiser parce que finalement...
C'est forcément l'humain.
Oui, puis chacun veut son film et pas celui du voisin. Donc c'est un marché, tu peux en vivre de façon intéressante en tant que freelance, mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé les clés. Je me suis dit, il faut faire autre chose.
Ok. Donc, l'autre chose, qu'est-ce que c'est ?
Ben, l'autre chose, c'est ma nouvelle activité depuis quelques mois. Donc, je suis devenu banquier d'affaires.
Donc, c'est pas tout à fait pareil.
Et pourtant, tu vas voir, il y a des points communs. Banquier d'affaires, c'est quoi ? C'est un intermédiaire qui accompagne des entrepreneurs, soit pour lever de l'argent, trouver des financements quand tu es une start-up et que tu as besoin d'accélérer ton développement, soit pour vendre ta société, si tu es un patron de boîte qui veut céder son entreprise, soit quand tu es un grand groupe, pour être accompagné dans l'acquisition d'autres sociétés.
Okay.
Le fameux M&A, voilà. Donc, on fait ça et finalement, le fil conducteur entre le journalisme, ma vie d'entrepreneur et ça, c'est l'information. C'est-à-dire que c'est un métier qui se nourrit d'informations. Ouais. Il faut savoir qui cherche quoi, qui veut faire quoi, avoir des idées, une expertise et réunir toutes ces pièces du puzzle pour aider... tes clients à se développer.
D'accord. Et comment ça t'est venu, cette idée? On est venu te chercher? Tu as commencé à rencontrer des gens? Tu dis, ah, bah, pourquoi pas?
Bah, en fait, bon, les banquiers, j'en connaissais depuis longtemps. En fait, c'est venu parce que je me suis interrogé sur... j'ai demandé à ma petite voix, tiens, qu'est-ce que tu peux faire après Décideur TV? Parce que l'aventure industrielle de Décideur TV, je voyais bien qu'elle allait... Enfin, que c'est pas moi qui arriverais à la développer, en tout cas, et que j'avais pas trouvé les clés. Il fallait que je fasse autre chose. Donc, est-ce que je retournais dans les médias? Est-ce que je lançais un autre projet? Ou est-ce que je faisais quelque chose de différent? Et puis, ça se fait toujours un peu comme par rencontre et par envie. Et donc, j'ai poussé plusieurs portes. Et un peu par hasard, j'ai rencontré avant l'été, l'année dernière, Patrick Robin, qui est un des fondateurs, des cofondateurs d'Avolta Partners, qui est cette banque que j'ai rejoint. Et il m'a dit, bah tiens, viens prendre un café. Puis on a parlé. Il m'a dit, bah ouais, pourquoi pas.
C'est
comme
rencontre.
Ça que ça s'est fait.
Ouais. Et donc, est-ce que tu as eu besoin d'une formation particulière?
Bon, t'avais un... Alors, je suis en formation, là.
Ouais.
Non, mais c'est un métier qui est à la fois très technique, avec beaucoup d'expertise. Et là-dessus, en effet... Bon, moi, j'ai un background école de commerce et me suis toujours intéressé au business. Donc, j'ai quand même beaucoup de connaissances dans le secteur. Mais après, c'est vrai qu'il y a une technique. Et alors, ce qui est bien chez Avolta, c'est que c'est très processé. C'est-à-dire que tu as des partners et puis aussi tu as des directeurs associés analystes. Hein. C'est une structure qui est assez classique dans les banques d'affaires, mais qui permettent d'appuyer sur des expertises et des savoir-faire très professionnels. Donc, moi, je ne vais pas être le meilleur pour faire des DCF parce que c'est quelque chose que manipulent très bien les équipes.
Le DCF, bon, c'est quoi?
C'est un outil qui permet de calculer, de valoriser une entreprise.
Ok, d'accord.
Donc c'est ce qui permet de en anticipant les revenus futurs d'une entreprise de recalculer de mettre un prix sur sa valeur. Et donc en fait voilà, ça me permet finalement d'apporter moi ce que j'aime faire, c'est-à-dire avoir des idées, rencontrer des gens, trouver des solutions et apporter avec ce complément, avec cette équipe, cette expertise pour que ça soit fait de façon professionnelle et avec beaucoup d'engagement et beaucoup de réussite. Et donc oui, c'est un métier nouveau, mais c'est ça qui est excitant. C'est-à-dire que tu vois, j'ai été journaliste, j'ai dû apprendre from scratch, j'ai été entrepreneur pareil, et là voilà, je dois relancer aussi.
Il y a eu des peurs, des inquiétudes, des doutes
sur ce
changement,
virage.
Ouais.
Non, moi j'ai jamais eu peur à ce niveau-là, enfin, quelles que soient les étapes professionnelles, j'ai toujours été plutôt... Moi, je ne suis pas guidé par la peur, mais par l'excitation, par l'envie. Toi.
Ok. Et dans le podcast Pourquoi pas moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de creuser sur le rôle de l'entourage, en fait,
ouais,
de mes invités. Comment ça se passe chez toi, enfin, ton entourage proche, comment ils vivent tout ça?
Bah, c'est évident que si t'as pas le support de ton entourage, de ta famille et en particulier de ma femme Karine, j'aurais jamais entrepris tout ça. Ça,
ouais,
c'est sûr. C'est-à-dire que c'est essentiel quand t'as la chance d'avoir un couple, une famille sur lequel tu peux t'appuyer. Oui, tu peux pas te battre sur tous les fronts.
Ouais, parce que t'as des enfants.
J'ai deux beaux enfants.
Qu'ont quel âge ?
Ils ont 20 et 23.
Et quand tu as monté du coup ton entreprise, ils étaient tout petits, Décideur TV ?
Bah non, oui, moi ouais, je les ai rencontrés, en fait ils avaient 6 et 9 ans, tu vois.
D'accord.
Donc, ils étaient petits mais ils faisaient déjà leur nuit.
Ok, ouais, ça aide pour le sommeil, ouais, ouais, je comprends. Et De quoi t'es le plus fier aujourd'hui ?
C'est une bonne question, c'est difficile, je sais pas en fait. Je sais pas si je suis fier, mais je suis heureux d'avoir écouté finalement mes intuitions et d'avoir suivi un parcours qui était, enfin, qui peut sembler éclectique ou en tout cas qui était pas tracé. Voilà. Après, je suis heureux. C'est marrant parce que j'ai reçu ce matin une photo d'ancien de Décideur TV qui se voit. C'était gentil d'ailleurs. Il me disait, vous voyez, Décideur TV, ça a permis aussi de créer de belles histoires en dehors de la boîte.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est touchant de se dire, ben voilà, ça n'a pas été un énorme succès d'entreprise, mais ça a permis quand même on a créé quelque chose. Mm-hmm.
Ouais, des belles rencontres.
Ouais, et puis on a rendu service à des clients, on a fait travailler des gens, on a essayé de traiter correctement nos actionnaires. Enfin bon, tout l'écosystème que tu peux insuffler dans et toute l'énergie dans justement cette création d'entreprise. Ouais, c'est quelque chose qui est une belle expérience.
Il y a eu plusieurs moments où tu as dû lever des fonds pour Décideur TV ?
Alors on a levé deux fois de l'argent. Alors maintenant c'est mon métier.
Ouais.
J'en ai fait un métier. Mais oui, c'est pas simple.
Ouais.
C'est pas simple et je comprends pourquoi est-ce qu'il y a des banquiers d'affaires maintenant.
Tu avais levé auprès de quel type de
business angels.
D'accord.
Ouais.
C'était pas des fonds.
Non.
Ouais.
Non, nous on rentrait pas dans la catégorie des fonds. Enfin, tu vois, les médias, c'était pas un business model qui.
Ouais, c'est pas ça. Ouais. Et puis t'étais peut-être un peu trop vieux aussi.
Trop vieux ou trop jeune.
Ouais.
En termes d'entreprise.
S'il y a des personnes qui te rencontrent et qui te disent que tu as de la chance, comment tu réagis ?
Bah, sans doute, oui. Moi, je me dis tous les jours que j'ai de la chance. Hein. Il faut remercier Dieu si tu es croyant ou je sais pas qui. Sinon, mais ouais, je pense qu'il faut se rendre compte qu'on a de la chance.
Ouais. Si le petit Thomas de 6 ans te voyait aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qu'il penserait ?
J'en ai aucune idée. En fait, c'est pas des questions que je me pose. c'est difficile. En fait, moi, c'est pas au Thomas de 6 ans que je pense, c'est au Thomas de 90 ans que je pense.
Ouais.
Et c'est pas moi qui le dit, c'est pas original. Je crois que Jeff Bezos, quand il a lancé Amazon, il s'est posé cette question, il s'est dit, est-ce que quand tu auras 90 ans, je sais pas quel âge, quand tu te retourneras sur ta vie, est-ce qu'il y aura des choses que tu regrettes? Et je pense qu'il faut essayer de ne pas en avoir trop.
Ouais, c'est l'épisode que j'ai sorti la semaine dernière avec Olivier Garibal, qui est une personne absolument extraordinaire. En fait, il a eu un parcours de vie où il a fait médecine, une école de commerce. Il s'est dit, bon, tiens, je vais travailler dans la banque. Et un jour, il a eu un énorme problème de santé. Il avait une petite opération complètement courante. Et finalement, il s'est réveillé avec la moitié du visage paralysé à vie et une tumeur... qui lui ont dû au coup enlever. Donc là, il s'est dit, bon, bah, de quoi va être fait ma vie? Et en fait, il s'est dit, bah, peut-être que je vais mourir, en fait. Sachant qu'accessoirement, il était papa 2 mois après. Donc, on peut imaginer tout ce qu'il s'est dit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous invite à écouter l'épisode.
C'est du teasing.
Je vous invite à écouter l'épisode. La bonne nouvelle, c'est qu'il va bien aujourd'hui. Il n'a pas retrouvé complètement l'usage de son visage. Mais bon, en tout cas, il est heureux aujourd'hui. Et maintenant, il produit une des meilleures huiles d'olive du monde. Et il disait, en fait, quand il s'est retrouvé sur son lit d'hôpital, tu te dis, bah ouais, mais en fait, quand tu seras mort, en fait, les gens qui t'ont mis dans des cases, ils seront pas là, en fait. Et il faut pas, enfin, quand tu te retournes et tu te dis, bah, est-ce que ma vie, je suis heureux? Est-ce que j'ai des regrets? Enfin, c'est faire en sorte que chaque jour de ta vie, t'aies pas de regrets, en fait.
Oui, c'est ça l'idéal, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je fais de ma vie, oui.
Ouais.
Le chemin de vie, c'est important de. Parce qu'on est vite happé dans le quotidien, dans plein de choses. Et enfin, ça rejoint ta question. Oui, on a de la chance tant qu'on peut, en effet, déployer de l'énergie à faire des choses. Et c'est pour ça, faut pas la gâcher. Faut essayer de faire des projets qui servent à quelque chose, ou en tout cas qui te rendent fier, comme tu disais.
Ouais, la quête de sens. Avec du recul, est-ce qu'il y aurait une question et un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne?
Il y en a plein, en fait. Je pense qu'on se nourrit de conseils. Alors, mon père me disait un truc très vrai. Parce que quand je te l'ai dit, hein, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu un enfant pas facile, on va dire. et ma mère me donnait plein de conseils, hein, disant tu devrais pas faire ci et tout. Moi, j'écoutais rien. Et mon père disait tout le temps, mais de toute façon, les conseils ne servent qu'aux autres. Enfin, les conseils. c'est, les conserves servent à rien tant que c'est pas toi qui en a fait l'expérience. Je me rappelle plus de la formule, mais ça voulait dire ça en gros. L'expérience des autres ne sert à rien. Mmh. Et bon, c'est vrai, tu as beau avoir des conseils, tu les écoutes pas toujours. En vieillissant un peu plus, non, je sais pas, oui, tu as besoin de plein de conseils, tu as besoin de t'informer, de lire. Mais ce qui est génial actuellement, c'est que tu ne manques pas de sources d'informations. C'est-à-dire que si tu cherches des conseils, même si tu n'as pas les connexions et tout, tu vas sur YouTube, tu écoutes des podcasts, tu as une source d'informations et de conseils, de richesse de gens anonymes ou de gens très célèbres qui peuvent te partager leur expérience. Enfin, tu vois, écouter, pour rester dans l'entreprise, Elon Musk ou Bill Gates, c'est des sources d'inspiration incroyables.
Hein. Ouais.
Et ça, à toutes les échelles, dans tous les secteurs. Donc, enfin voilà, maintenant, faut aller chercher cette info. Ouais.
Et toi, aujourd'hui, dans ta nouvelle vie, quelles sont tes sources d'inspiration ?
Je vais te dire, c'est autour de moi, c'est les partenaires que je rejoins. J'essaie d'apprendre d'eux, tu vois, de comprendre finalement comment ils fonctionnent, chacun avec sa sensibilité. Je suis assez bluffé parce que c'est vraiment un métier très très humain. Et donc c'est ça pour l'instant mes sources d'inspiration, c'est de voir comment ils travaillent.
Et quels sont tes prochains challenges ? Donc là, on vient d'attaquer une nouvelle décennie.
Donc, c'est de réussir dans cette nouvelle phase. Hein, moi, je fonctionne beaucoup presque par décennie. En effet, un peu plus, 12 ans, on peut dire. J'étais 12 ans journaliste, 12 ans entrepreneur. Et voilà, là, s'ouvre une nouvelle carrière. Oui, cette décennie, c'est de réussir ce métier, ce virage. Et tu reviendras me voir dans 12 ans ou dans 10 ans.
Pour voir que...
En 2030.
T'as des idées de la suite ou tu te dis, ça, on verra bien
Moi je vis pleinement, enfin à fond sur ce nouveau métier. Je suis engagé à fond là-dessus et c'est très excitant de partir parce que ça reste ce que j'aime faire, c'est-à-dire être au cœur du business, tu vois, et comprendre les évolutions de l'économie et comment tout ça fonctionne, être au cœur de la machine. Donc je suis à fond là-dessus.
Et t'as plus du tout la partie journaliste, le journalisme a totalement du coup disparu de ta vie aujourd'hui?
Pas complètement, parce que déjà Ficad qui a racheté, je vais les accompagner quelques mois pour la transition et essayer de les aider à structurer un pôle audiovisuel, parce que ça permet de faire vivre Décideur TV au-delà de ce que j'ai pu lancer. Et puis, tu sais, on est dans des mondes où, regarde, toi tu fais un podcast, ça t'empêche pas de faire d'autres choses dans la vie. Moi, c'est toujours un métier qui m'a beaucoup plu qui me plaît toujours. Donc, mon métier, c'est sûr que c'est banquier d'affaires, mais si demain je fais une émission d'une heure par semaine sur un sujet ou un autre, ça me déplairait pas.
D'accord. Et d'ailleurs, pourquoi t'as quitté tes LCI ?
Alors c'est très simple, c'est parce que LCI a arrêté la bourse, donc je m'occupais de la bourse. Ouais. Tu sais, quand ils sont passés d'une chaîne payante à une chaîne gratuite la TNT en clair, ils ont décidé, à tort à mon avis, que la bourse intéressait pas suffisamment le grand public. Alors que c'est un formidable thermomètre de l'économie, mais bon, on va pas refaire le débat. Et le point qui est vrai, c'est que bon, ceux qui s'intéressent à la bourse sont sur Internet, et donc ils ont arrêté l'émission.
D'accord. Donc, t'étais content d'avoir Décideur TV en backup.
Non, mais Décideur TV était déjà le gros de mon activité, et de toute façon, au bout d'un moment, c'est difficile d'être. Moi, je l'ai plutôt bien vécu. Ça me permettait de me basculer à 100% sur Décideur TV.
Ok. Super. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes à qui tu as envie de dire merci et pourquoi ?
Il y en a énormément. Enfin, tu vois, sans faire la cérémonie des Césars et remercier. Son entourage. Alors, ça va, des parents, du cercle de la famille, sa femme, bien sûr, Karine, encore une fois, et tous ceux qui t'ont fait confiance, qui t'ont donné une chance à un moment donné, qui t'ont tendu la main. C'est important. C'est important et je leur dis merci.
Merci beaucoup, Thomas.
Merci à toi, Charlotte.
J'espère que cet épisode vous aura plu. J'avais pris un petit peu d'avance sur mes enregistrements. La semaine prochaine, je vous propose donc un tout autre univers. Damien Duquesne, alias Chef Damien, a écouté sa petite voix dans un univers tout autre. Professeur, auteur de livres de recettes, restaurateur, cofondateur du site 750 grammes, vous l'aurez compris, nous allons parler cuisine. J'ai une pensée toute particulière pour lui en ce moment. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?